Bonjour et bienvenue dans « Et si c'était vrai ?» Et si c'était vrai, podcast magique avec Dominique Duvivier qui est de retour avec nous. On est très content. Bonjour Dominique.
Bonjour Lionel.
Tout va bien aujourd'hui?
Mais oui, ça baigne.
Tout baigne, on est très très content de vous retrouver, évidemment, comme d'habitude. On est très content de parler de magie. Et pour ce numéro, de nouveau numéro de Et si c'était vrai, je vais vous demander, Dominique, s'il vous plaît, de tendre votre main droite ou gauche, celle que vous voulez, paume vers le haut, de la laisser tendue, de fermer les yeux pendant quelques secondes, de ne pas tricher, il n'y aura rien de particulier, hein, ne vous inquiétez pas. Et à un moment donné, bah, quand je vous demanderai d'ouvrir les yeux, bah, vous réouvrirez les yeux et on verra ce qui va se passer. Vous êtes OK avec ça? Eh bien, allons-y. Donc, on y va. Donc, paume vers le haut.
Je vais mettre comme ça ou comme ça?
Comme ça, c'est parfait. Très bien. Vers moi. Vous fermez les yeux et dans une seconde, je reviens. Ne bougez pas. Voilà, Dominique, vous pouvez ouvrir les yeux. Et je vais vous demander de décrire la situation.
Telle que je vois, là?
Absolument.
Eh ben,
le plus basiquement possible.
Ouais, ben j'ai donc ma main que tu m'as voulu que j'étende. Donc elle est étendue, les doigts serrés, et tu as mis un petit écrin, genre une petite boîte. Moi, je pourrais mettre une Duvivier Conbox là-dedans sans problème, mais disons que c'est pour mettre une bague... dedans.
Quoi. Voilà, exactement. Bah, je vais vous demander d'ouvrir cette petite boîte. Alors,
ah, c'est le fruit d'or.
À l'intérieur. Donc, un petit objet. Bah, vous l'avez dit, un petit objet qui représente le fruit d'or. Et alors... tout de suite, pour vous mettre à l'aise, j'ai demandé l'autorisation à Claude pour faire ce petit scénario.
Hein. D'accord.
Donc, il a accepté. Il m'aurait dit, j'aurais pas accepté il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est le cas, donc on peut en parler librement.
D'accord.
Donc voilà, j'aimerais déjà qu'on situe un petit peu cette tradition qu'est le fruit d'or, et puis que vous décriviez quand même ce qu'il y a dans le petit écran, que tout le monde sache de quoi il s'agit.
Oui. Alors donc dans cet écrin, donc c'est pas une bague, c'est un petit truc enfin qui ressemble à de l'or, mais je crois pas que ça en soit. Donc c'est couleur
pins,
or,
en fait.
Comment ?
C'est un pins en fait.
Ouais, c'est un pins exactement. Et ce pins, on voit, c'est dessiné, c'est un bout de truc, je sais pas comment dire, moi je suis pas bon à ça. Enfin, on dirait que c'est deux petites feuilles.
Voilà.
Et puis une grappe de raisin.
Exactement.
Et comme c'est un pins, là c'est le pins balèze, parce que toi t'as la version, parce qu'il y a eu plusieurs versions avec
la
toi.
La version de luxe.
Toi t'as la version de luxe que j'ai aussi, aimantée.
Oui.
Hein, où donc tu peux mettre ça sur ta chemise ou sur la veste, et puis tu mets l'aimant derrière, comme ça fait tenir le pins.
Voilà.
Et donc ça c'est un peu le truc de ralliement des fruits d'or de Montaneuf.
Ah.
Alors, attends. Les fruits d'or de Montaneuf, donc, ont été créés par Fred Capps et Claude Rix, je dirais dans les années 50-60, hein, je dis ça de mémoire parce que je suis pas un super balèze au niveau des dates par rapport à ça, mais enfin je pense que ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Fred Capps était donc très copain avec Claude Rix, ils se rencontraient souvent, notamment à Reims, puisque Claude habite Reims, et notamment dans la petite maison que Claude avait achetée en plus de l'appartement qu'il a à Reims même, parce que là c'est un peu plus loin, hein, je ne saurais pas dire exactement, c'est un bled...
On est au cœur des vignes.
Au cœur des vignes, oui. Je sais y aller parce que j'ai mon GPS qui m'y amène, mais je ne saurais pas y aller de mémoire.
C'est assez paumé. Hein,
ouais, c'est assez paumé. Il y a quand même l'électricité, mais je ne sais pas s'il y a eu toujours l'électricité.
Il n'y avait pas d'eau.
Oui, il n'y avait pas d'eau. Bon, c'est quand même un truc un peu spécial. Et donc, ils se réunissaient souvent, tous les deux, et ils y prenaient plaisir. Et un jour, Claude a dit à Fred, ou Fred a dit à Claude, ou les deux se sont dit, tiens, ça pourrait être sympa finalement qu'on formalise un peu ces réunions, et ça serait bien si on constituait une espèce de club, une espèce de société un peu secrète. Bon, pas du tout à but de faire des choses malsaines, mais on pourrait se réunir comme ça chaque année et faire quelque chose de magique. Et le hasard, c'est encore une fois de plus ma version, ça ne doit pas être exactement ce qui s'est passé, mais enfin, dans l'idée, ça doit être à peu près ça. Ils se sont dit, tiens, ce qui pourrait être bien, c'est d'organiser une espèce de concours qui serait un peu informel, où il faudra avaler un couteau.
Oui.
Alors, y en a un qui a fait le couteau classique, tu sais, où tu prends, tu mets tes deux mains
jointes,
et puis tu prends le couteau et tac, tu fais mine de l'avaler. Et puis finalement, on croit que tu l'as avalé, alors qu'en réalité...
Il est lapé.
Il est lapé, voilà. Un autre a fait une autre version, et ils ont décidé, tiens, ça pourrait être sympa de faire chaque année... d'ordonner un nouveau fruit d'or, et ça pourrait être une grande figure de la magie du monde, ça peut être français, européen, ou américain, ou japonais. Et après, il en restait un problème, c'est mais comment on va appeler cette confrérie ?
Oui.
Et il se trouve que sur la table, il venait de déjeuner, tu vois, et il y avait... une bouteille d'huile,
oui.
Hein, qui s'appelait Fruit d'or. Et Fred Capps, ne connaissant pas du tout cette marque, bah tiens, on pourrait appeler ça le Fruit d'or.
Oui.
Et comme il se trouve qu'ils étaient à Montaneuf,
oui.
Et ben, c'est devenu la confrérie du Fruit d'or de Montaneuf.
Oui.
Et donc à partir de là, hein, je te fais juste ça, et après il y a eu chaque année des gens très prestigieux comme Franck Garcia, comme Pavel, comme Ali Bongo, comme Richard Ross, comme Tommy Wonder,
Gaëtan.
Comme Gaëtan Blum, et tant d'autres, quoi. Hein.
Oui, c'est très difficile de tous les citer.
Ah oui, très difficile de tous les citer, parce que vraiment, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui est dommage, je ne sais pas s'il faut parler de ça maintenant, mais bah, c'est que il y a eu, ça a été vraiment une décimation... les dernières années, là, tu vois, parce qu'on a perdu Ali Bongo dans la foulée, on a perdu Tommy Wonder, Richard Ross, je te dis ça à 2-3 ans près, mais enfin, c'est quand même, pour moi, un peu presque dans les 2-3 mêmes années, même si c'est pas vrai.
Oui.
Moi, ça m'a donné vraiment cette impression.
Oui, qu'il y a eu une vague
ouais,
terrible.
Il y a eu Ali Bongo, et je pense qu'Ali...
Et Pavel était... aussi.
Et Pavel, bien sûr. Pavel et Ali, je crois que ça a été le coup de grâce pour
oui.
Claude,
oui.
Psychologiquement, parce que moi je sais que je fais partie du Fruit d'Or depuis quand même de longues années. Hein, par exemple, tu vois, ça me vient, parce qu'on en parlait dans une émission précédente, du magnifique coffre dont tu
oui.
m'as posé des questions sur mon running gag. Bah, ce magnifique coffre, pardon, a été fabriqué par un type qui s'appelle Chapelier,
oui.
qui faisait partie du Fruit d'Or. C'est lui qui m'a fait ce coffre. Et ce type que vous ne connaissez pas, mon cher Lionel,
non, non,
et qui est certainement pas très connu des gens à qui je viens de le dire à la seconde, c'était quand même le mec, ou un des mecs, qui fabriquait tout le matériel de Fred Capps.
Ouais.
Fabriquait notamment ses pièces truquées et des choses de ce genre. Et j'ai la chance et l'honneur qu'il m'ait fabriqué ce coffre, qui est donc pour moi une pièce assez unique. Quoi.
Ah oui. C'est magnifique en ouais. plus. Et donc, ce qui est très, très intéressant, donc, le fruit d'or c'est annuel. Et chaque année, Claude, au départ avec Fred, et puis quand Fred a disparu, entre parenthèses, on parlait d'alcool, on parlait d'alcool dans les émissions précédentes, il y a quand même une autre motivation
c'est vrai.
Au fruit d'or.
C'est vrai.
Au fruit d'or, c'est l'alcool.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tant et si bien que Claude a même inventé, fabriqué, enfin fait fabriquer. le champagne du Fruit d'Or de Montaneuf. Et je crois qu'on ne peut pas compter le nombre de bouteilles qui ont été ouvertes depuis la naissance du Fruit d'Or jusqu'à la fin du Fruit d'Or. Parce que finalement, il n'y a pas eu de fin officielle. Mais on peut dire que le Fruit d'Or s'est éteint avec Ali Bongo, puisque oui. On devait faire une dernière. Claude était d'accord pour faire ça, il avait envie de faire ça, mais il a eu un peu des problèmes de santé, même si Dieu merci, il est encore, moi je trouve, plutôt vaillant, mais enfin n'empêche qu'il a plus la niaque, et je répète, je pense que c'est Ali Bongo pour finir et Pavel juste avant, qui lui ont mis le coup de grâce psychologique,
oui. Et
là, il a plus la niaque pour qu'on continue. C'est dommage, parce qu'on avait intronisé dernièrement... Boris Wilde, enfin, des gens dans le coup du moment, quoi,
absolument,
tu vois.
Absolument, oui.
Mais bon, c'est comme ça. Oui. Toi aussi, d'ailleurs, tu fais partie du Fruit d'Or.
Parce que j'ai l'honneur et le privilège de faire partie du Fruit d'Or. Et Dieu sait si c'est un honneur, parce qu'on a vu des choses. Moi, j'ai assisté à des moments au Fruit d'Or qu'on ne peut pas oublier, notamment Dominique Duvivier parlant avec Tommy Wonder, etc. Mais c'était vraiment des moments... Des grands, grands, grands moments, des grands souvenirs de magie.
Ben moi, je peux te dire que chaque année, ça faisait partie... parce que les grandes années, toi, tu as connu déjà, on va pas dire le déclin, mais une autre version, si tu veux, du Fruit d'Or. Moi, j'ai connu le moment déjà où c'était plus comme c'était dans les années 60-70, mais ça commençait le jeudi, il y avait le vendredi, le samedi et le dimanche.
Oui.
Hein, un peu le jeudi, plus le vendredi, et vraiment le samedi et le dimanche.
D'accord.
Moi, j'ai connu vraiment au vendredi, samedi, dimanche.
D'accord.
Ça veut dire qu'on venait le samedi, et pour moi, c'était une fête le samedi, parce que le samedi, il n'y avait pas de spectacle. Le dimanche, c'était le spectacle,
oui.
Comme toi, tu as connu.
Oui.
Mais le samedi, on se faisait un déjeuner. Et après, on n'avait qu'une envie avec Tommy Wonder, avec Richard Ross, parce que moi j'étais très très proche de Tommy Wonder et de Richard. Richard, c'est lui qui m'a donné ma chance à faire ma première FISM,
oui.
En 1988. Il a toujours cru dans mon talent, j'ai toujours adoré ce mec. C'était vraiment un mec super. Il a été champion du monde deux fois, c'est un grand, grand moment. Il a eu justement, si ça n'a rien à voir, je parlais du Running Guy dans une émission précédente, lui, il a eu l'idée de génie, pour la première fois, de faire un numéro, il n'y avait pas que ça, hein, mais quatre anneaux chinois, et de faire une routine comme jamais on avait vu. Quoi.
Oui. Hein. Oui.
Et puis il a inventé son numéro avec les montres, et des choses comme ça, que j'ai eu la chance après de racheter...
Oui.
À Véronique Ross.
Et donc vous vous rapprochiez.
Et le samedi, on mangeait vite et on allait se mettre dans une pièce. Alors ceux qui avaient envie pouvaient nous regarder. Et on s'échangeait, on se montrait les choses qu'on avait inventées pendant l'année.
Oui. Ouais. Absolument.
Hein, et vraiment, c'était des grands moments. Richard, lui, n'inventait pas beaucoup, il était plus golf, lui, tu vois. Mais n'empêche que ça lui a redonné, j'ai vu, un coup de fouet magique. Il assistait à nos trucs, il participait, il bricolait avec nous, touchait un billet par-ci, une carte par-là. Et puis, il commençait à faire des trucs et il se sentait obligé de refaire des tours avec nous, alors qu'on me disait, les autres, ouais, non, ça fait longtemps qu'on ne voit pas Richard faire de magie, quoi.
Ouais,
tu vois,
ouais.
Il était plus à se marrer, à déconner.
Ouais,
ouais. Alors que là, il s'était repris au jeu. Parce qu'il nous voyait, Tommy et moi, très souvent, tous les deux en train de se montrer nos bidules, nos machins.
C'est une ambiance très dynamisante,
ouais,
en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Même si au premier degré, peut-être que... Ce qui est très, très intéressant, c'est que derrière, ça peut engendrer à la réflexion d'autres, des évolutions sur des tours, etc. Et l'ambiance était absolument exceptionnelle.
Oui, enfin, exceptionnelle. Et puis, un des trucs qu'il faut vraiment saluer de Claude Rix, c'est qu'il y a, comme tu dois le savoir, beaucoup d'inimitié dans le monde magique, comme d'ailleurs dans tous les domaines du monde, hein, mais en particulier dans le monde magique, c'est quand même assez énorme, bah, il a quand même réussi, lui, à faire venir
absolument
des gens de, on va dire, d'obédience très différente.
Oui,
hein,
oui,
mais
oui,
il arrivait, alors évidemment, on n'était pas forcément à se taper sur le ventre tous ensemble en même temps. Enfin,
oui.
N'empêche qu'il arrivait à déplacer des gens de toute l'Europe, voire d'Amérique, hein, dans ce trou perdu, tu vois, de Montaneuf.
Vraiment perdu. Hein.
Ah oui, vraiment perdu, où il n'y avait rien, rien. Mais il n'y a toujours rien, d'ailleurs, hein, parce que ça existe toujours. Mais n'empêche que tu voyais, moi j'adorais ça, toi. T'arrivais avec ta voiture, et selon le jour ou l'heure où t'arrivais, tu voyais un cortège de voitures.
Exactement.
Avec des plaques minéralogiques de tous les pays du monde, tu vois, qui venaient là pour passer 3 jours à se montrer les trucs, et en plus, dans un climat de bonne franquette,
oui,
comme jamais j'ai vu ailleurs.
Absolument, absolument.
C'est vraiment extraordinaire.
Ouais. Une très très belle organisation, et tout cela était très très simple,
oui,
et organisé par Marie-Thérèse, bien sûr.
Exactement.
La femme de Claude et Claude Rix, et toute son artillerie d'amis qui l'aidaient pour ça. Donc voilà, je voulais parler de ces moments-là, parce qu'au niveau magique, c'est intéressant de savoir que, un, il y avait un exercice, un exercice de style sur le fait, maintenant, il va falloir trouver quelque chose, parce que c'était quand même le postulat de départ,
oui,
pour ceux qui étaient nommés au Fruit d'Or, trouver une nouvelle routine sur la base de « j'avale un couteau ».
Voilà, exactement. Voilà. On avale un couteau, et sinon, tu n'es pas intronisé. Et une fois que tu es intronisé et que tu as avalé ton couteau, il y avait une espèce de juré dont tous les membres du Fruit d'Or participaient, et on délibérait avec le nouveau Fruit d'Or qui postulait, qui était assis sur une chaise, mais de dos par rapport à nous. C'était très protocolaire, mais en même temps, c'était pour s'amuser. Et on parlait pour qu'il entende. Alors oui, non, ça, c'est pas bien, parce que là, il a fait ça, mais c'est pas bon. Non, je pense qu'on va pas pouvoir le prendre. Tout le monde disait ça à chaque fois, c'était rituel. Finalement, on le faisait venir, et on lui demandait, mais alors, est-ce que tu as eu recours à un compère, non? Est-ce que tu as eu recours à ci, à ça? Bon, et n'empêche qu'on a vu des choses exceptionnelles.
Oui, oui.
Moi, il y en a une parmi d'autres qui m'a vraiment marqué, c'est comment Ali Bongo a avalé son couteau. Bah lui, l'idée de génie qu'il avait eue, c'est de prendre un couteau, un vrai couteau, et prendre un verre, et dans ce verre, il prend de l'acide sulfurique.
Ouais.
Il verse l'acide sulfurique dans le verre, alors tu vois la fumée, machin, et tu vois le couteau qui est mis dans le verre, tu vois le truc qui se dissout, et maintenant il prend le verre et il boit, et comme ça il a avalé un couteau.
c'est génial.
Ali, il avait des idées chaque année, il nous trouvait le cul, si on peut dire, avec des choses incroyables, quoi.
Ouais, ouais. J'ai beaucoup, en plus, c'est très exubérant, Ali Bongo, hein. Donc
ouais,
en effet,
ouais, ouais.
Alors, moi je ne l'ai pas vu pour le coup, cette intronisation là j'y étais pas encore,
et moi non plus je ne l'ai pas vu, mais il m'avait raconté, mais
j'imagine voilà, la fumée partout, etc.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais je trouve que le concept est extraordinaire,
et le concept est extraordinaire, parce que c'est permet de prendre un billet pour arriver au final à être dans les clous du protocole.
Ali était vraiment un génie, parce que il n'était pas technicien, ni de scène, ni de salon, ni de close-up, mais il arrivait toujours. Pour moi, je pense que Gaëtan serait d'accord avec moi. Gaëtan s'est beaucoup inspiré d'Ali, d'une certaine façon, dans le sens que quand Ali te fait un truc, que ce soit un tour de carte ou que ce soit une grande illusion, ça a l'air un peu fait de briques et de broc.
Oui.
Mais quand il te fait son truc, tu comprends pas, quoi.
Oui, oui, oui.
9 fois sur 10, tu te dis, putain, j'ai pas compris. Ou alors tu dis, ah ouais, ouais. Et comme souvent, il l'expliquait, parce que tu lui demandais, il t'expliquait, il n'y a pas de problème. Mais c'était pas du tout ce que tu avais pensé. Toi. Il avait une idée de fou. Et je trouve que Gaëtan, c'est un peu ça.
Oui.
Toi aussi.
Et alors, travaillons un peu sur ce couteau. Vous pouvez décrire, vous, l'idée que vous avez eue pour avaler votre couteau?
Oui, moi, mon couteau, ça a été d'aller chez le nôtre.
Oui.
Et j'ai fait fabriquer un couteau suisse en sucre. c'est machiavélique. C'est
incroyable.
Donc, ça n'a pas été simple de décider, tu vois, les cuisiniers de chez le nôtre de faire ça, mais ils m'en ont fait. Ils m'ont fait 5-6
exemplaires.
Exemplaires. Parce qu'il fallait quand même que je répète. Tu
oui,
vois
oui.
Et bah, ils étaient magnifiques, quoi, tu vois, mes couteaux. Donc je les répétais une fois ou deux, j'en avais encore deux, trois. Ils s'étaient mis dans un truc isotherme pour pas que. Tu vois, parce que le sucre, pour pas que ça. Hein.
Oui, parce que c'est l'été. Hein,
ah bah oui, ça se passe
en
toujours
plein été.
En plein été. Et souvent, il y a un cagnard pas possible. Tu
au
vois.
Mois d'août, oui.
Donc j'avais prévu mon truc, j'avais demandé à le nôtre comment on pouvait faire. Donc j'avais mon truc isotherme, un peu comme si c'était de la glace. Mmh. On a emmené notre machin. J'avais trouvé donc un système où j'avais plusieurs couteaux sur la table, dont un couteau suisse.
Un vrai, donc
un
pour
vrai.
Un coup.
Mmh. On donnait à examiner les couteaux, machin. Et puis finalement, tac, je fais un change, parce que j'ai forcé le couteau suisse normal à quelqu'un de normal.
D'accord.
Et une fois que le. Alors, j'avais essayé de faire un forçage qui était un peu vicieux pour pas qu'on se dise, ah oh, bah d'accord. Toi, c'est
bien
il y a
sûr.
Eu un échange de faits, enfin, un forçage de faits. Après, tac, un échange pas trop nul. Et maintenant, pour eux, comme il était vraiment identique, tu vois, eh ben, je me retrouve avec ce couteau fermé, parce qu'il était le truc en sucre, mais fermé.
Oui.
Parce que quand il était ouvert, c'était moins bien.
Oui.
J'avais fait faire une autre version avant.
D'accord.
Et c'était pas beau. Donc
oui.
J'avais fait faire
d'accord.
plutôt quand il était fermé.
Okay.
Donc ça donnait vraiment l'impression fermée vraiment du couteau suisse qu'on avait vu juste avant,
oui.
Qui était ouvert.
Je vois.
D'accord. Et donc après, tac-tac, je prends le machin, et hop, j'ai commencé à croquer. Ah, genre, ah bon, et ta-ta-ta-ta-ta, hop, je me suis tapé le machin, et ben voilà, j'ai le couteau avalé, quoi. Couteau mangé. Il y a un autre truc d'Ali, puisque c'est pas pareil, lui il l'avait bu,
oui, oui.
Moi je l'avais mangé.
Exactement. Mmh. Gaëtan l'a mangé également.
Oui, il l'a mangé également d'une autre façon,
d'une
parce
autre
que
façon.
Lui il mettait dans un grand sandwich, d'ailleurs on a fait une vidéo VHS à l'époque de ça, qui s'est très bien vendue, un grand grand sandwich qui faisait je sais pas combien, 40-50 cm, tu vois. Et alors c'était drôle, parce qu'en plus... Il mettait ce couteau dedans.
Oui.
Donc tu voyais la lame qui dépassait. Il fermait. Ah oui, on va pas manger comme ça, c'est pas possible. Non, on va mettre un petit peu de ketchup. Alors, puis il commençait à sortir du ketchup. Il mettait un peu de ketchup. Puis finalement, il mettait de la moutarde. Puis finalement, de la mayonnaise. Puis il y en avait partout,
oh,
dans tous
horreur.
Les sens. Et ce qui était la performance, c'est qu'il fallait qu'il bouffe. Donc il a vraiment mangé ses 50 cm de trucs. Alors c'était hilarant. Et en plus, c'était très fort parce que tu voyais vraiment. Le truc, il restait juste la lame, bidule,
ouais.
Les pompes, et hein, puis il avait mangé.
Donc, pas évident, l'air de rien.
Non,
hein,
pas
parce
évident.
Que
surtout que chaque année, il y en avait un ou deux. Hein.
Voilà, et donc, chaque année, la barre était placée plus haut parce qu'il fallait. Bon, on pouvait s'inspirer de ce qui avait été fait avant, avoir
oui.
Un petit peu d'informations sur ce qui avait été fait avant, mais surtout de ne pas refaire, évidemment, la même chose.
Exactement.
Donc, c'était très important, je pense, de parler de cette. Réunion incroyable qui a vu défiler des magiciens d'un talent fou et d'une renommée internationale extraordinaire,
ouais.
Tous coincés dans une propriété à Montaneuf au milieu des vignes. Donc là, je pense qu'on peut remercier Marie-Thérèse et Claudrix très 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 chaleureusement pour avoir initié avec Fred Capps ce club de magie qui est un club pour le coup vraiment unique au monde. Donc ben, merci à eux et on les embrasse très fort.
Oui.
À très vite, Dominique.
À très vite.